5h en temps universel, 2h de plus ici à Paris.
RFI Matin, Clotilde Dumay.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous, RFI Matin. 3h d'informations à travers le monde avec nos correspondants, nos chroniques, nos invités. On va évidemment vous donner les dernières évolutions du conflit au Moyen-Orient et les conséquences de cette guerre sur tous les continents, dans tous les secteurs. On en parlera d'ailleurs avec la nouvelle présidente de l'Institut du Monde Arabe à Paris, Anne-Claire Legendre, ancienne conseillère du président Emmanuel Macron pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Elle sera dans nos studios vers 8h20, heure de Paris. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Clotilde Dumay. À la une de ce journal, Donald Trump qui appelle de nouveau l'Iran à conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard. Les frappes israéliennes et américaines se poursuivent sur le pays, tout comme la riposte iranienne. Les Iraniens sont quand même sortis dans les parcs du pays hier pour célébrer une fête importante de leur calendrier. Nous sommes sur place dans un instant. Alors qu'une quarantaine de pays plaident pour la réouverture immédiate et inconditionnelle du détroit d'Ormuz, en accusant l'Iran de vouloir prendre l'économie mondiale en otage, les grands groupes pétroliers se frottent les mains. Eux, Greenpeace, les accuse d'engranger 80 millions d'euros de profits de guerre chaque jour en Europe. Dans ce journal également, un général de renseignement russe tué sur un pétrolier par une frappe ukrainienne face aux côtes libyennes. La suite ce matin de notre série d'enquêtes sur la guerre de l'ombre que se mène Kiev et Moscou dans ce pays. Et puis Rima Hassan jugée le 7 juillet pour apologie du terrorisme en France. L'eurodéputée franco-palestinienne a été placée hier en garde à vue.
Une guerre plus large avec des impacts dramatiques à travers la planète.
C'est ce que redoute le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, alors que Donald Trump appelle de nouveau l'Iran à conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard. Hier, le président américain s'est félicité de la destruction d'un pont près de Téhéran qui a fait 8 morts civiles selon un responsable local. Il menace d'autres frappes similaires ainsi que sur les centrales électriques. Un effondrement moral selon le chef de la diplomatie iranienne qui affirme que les frappes sur les infrastructures civiles ne pousseront pas les Iraniens à se rendre. L'Institut Pasteur de Téhéran et les deux plus grandes aciéries du pays avaient été frappés plus tôt dans la journée. Mais les bombardements incessants n'ont pas empêché hier les Iraniens de marquer une fête importante de leur calendrier, la fête de la nature, qui vient conclure la période du Nouvel An, Siavosh Gazi.
La tradition veut que les familles aillent dans la nature pour déjeuner dans la forêt ou les espaces verts, pour renouer avec la nature et commencer la nouvelle année avec espoir et dans la bonne humeur. Cette année, de nombreux Iraniens ont respecté cette tradition, comme Mohammad, venu avec toute sa famille malgré la guerre. Il prépare les brochettes pour le déjeuner familial dans un parc du centre de Téhéran.
Les gens n'aiment pas la guerre, mais au milieu de la guerre, on a besoin d'un peu de joie. Dieu soit loué, cette guerre va se terminer dans l'intérêt de la population. Nous ne vivons pas des jours agréables. Il y a des gens innocents qui sont en train d'être écrasés par la situation.
Soulmaz est également là avec toute sa famille. Elle espère que la victoire soit rapide.
Aujourd'hui, c'est le 13e jour du mois de Farvardin, le jour de la nature traditionnelle de l'Iran. Comme tous les ans, nous sommes sortis dans la nature aux côtés du peuple courageux. Nous fêtons ce jour pour dire que nous n'avons peur de rien. La vie continue avec l'espoir de victoire.
Désormais, beaucoup pensent que l'Iran a déjà gagné la guerre et espèrent l'arrêt des bombardements dans les prochains jours. Siavosh Gazi, Téhéran RFI.
Et l'Iran qui continue sa riposte contre les frappes américaines et israéliennes avec des bombardements contre des intérêts américains, notamment des centres de données dans le Golfe hier. Le Koweït dit faire face ce matin à des attaques de missiles et de drones. Et l'armée israélienne dit contrer des tirs de missiles alors que les gardiens de la révolution ont revendiqué dans la nuit des tirs en direction de Tel Aviv et d'une station balnéaire.
Lui estime que son pays est devenu victime d'une guerre dont personne ne peut prédire l'issue ni la date de fin.
La déclaration de Nawaf Salam, le premier ministre du Liban, alors que 18 pays européens ont appelé hier à la fin des opérations militaires israéliennes et des attaques du Hezbollah. La France et le Royaume-Uni n'en font pas partie. Les frappes israéliennes et l'invasion du sud du pays ont déjà fait plus de 1200 morts et plus d'un million de déplacés. Et des experts de l'ONU ont demandé hier une enquête internationale sur la mort de 3 journalistes tués samedi dernier. L'armée israélienne accusait l'un d'entre eux d'appartenir au Hezbollah, mais les experts estiment qu'elle n'a pas fourni de preuves crédibles. Une ONG américaine, le Comité pour la protection des journalistes, appelle également à une enquête à Blajounaïdi.
Ali Shoaib, Fatima et Mohamed Ftouni. Les 3 reporters ont été tués par une frappe israélienne sur leur voiture. Israël accusait le premier, un journaliste chevronné de la chaîne Al-Manar, affilié au Hezbollah libanais, d'en être un soldat d'élite sans en apporter de preuves. Sarah Kouda est directrice Moyen-Orient pour l'organisation Committee to Protect Journalists.
Sans preuve crédible de leur participation directe aux hostilités, ces frappes risquent de violer le droit humanitaire international. Ce qu'Israël essaie de faire, c'est de faire taire les témoins et de contrôler le récit en visant les journalistes qui rapportent les faits sur le terrain.
Ali Ridas Beiti, lui, est sorti indemne de la frappe israélienne contre un pont près duquel il se tenait avec son collègue Steve Sweeney de la télévision Russia Today. Il a très vite repris le travail.
Je suis du Sud, c'est mon devoir de couvrir ce qui s'y passe. Et c'est une bataille, oui. Chacun son arme, nous, c'est notre caméra et notre micro pour montrer au monde ce que fait cet ennemi au pays, les conséquences sur les gens, les infrastructures. On prend des risques pour porter la voix de notre peuple aussi.
Au total, depuis le début de la guerre, début mars, 5 journalistes ont été tués par Israël au Liban.
La guerre au Moyen-Orient, c'est aussi toujours, Julien, la délicate question du détroit d'Ormuz, presque entièrement bloqué par l'Iran.
Hier, une 40aine de pays ont plaidé pour sa réouverture immédiate et inconditionnelle en accusant l'Iran de vouloir prendre l'économie mondiale en otage. Un vote est prévu aujourd'hui aux Nations Unies sur une proposition de résolution portée par Bahreïn et les Émirats Arabes Unis pour autoriser l'usage de la force afin de débloquer le détroit. Les prix du pétrole ont encore bondi hier, alors que les prix du du carburant ne cesse d'augmenter depuis un mois. En Europe, certains automobilistes payent jusqu'à 27 euros de plus pour faire le plein, mais certains s'en frottent les mains. Depuis trois semaines, les grandes compagnies pétrolières génèrent plus de 80 millions d'euros de profits de guerre chaque jour dans les pays de l'Union européenne. C'est ce que dénonce l'ONG Greenpeace, et les demandes pour taxer ces super profits se multiplient, notamment en France, Jeanne d'Anglejean.
Chez les militants, dans les ONG ou dans les partis politiques, les super profits font réagir. L'ONG Transport et Environnement œuvre à décarboner les transports et les carburants. Diane Strauss en est la directrice.
La demande de pétrole est la même, mais par contre l'offre se réduit, donc les prix augmentent. C'est cette différence de prix que captent les compagnies pétrolières.
Alors pour elle, mettre une taxe sur les super profits générés par Total Energy, Eni ou Shell, c'est la meilleure option.
Elle peut permettre d'être redistribuée sous forme d'aide aux ménages les plus vulnérables, mais aussi sous forme d'investissement pour décarboner et pour structurellement sortir de ce problème qu'est la dépendance au pétrole.
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, l'Europe avait taxé les compagnies pétrolières, mais les 67 millions d'euros récupérés par la France avaient été réinjectés dans le budget global plutôt que dans la transition énergétique. Cette fois, Diane Strauss est plus optimiste.
Le gouvernement a l'air d'être plus allant sur l'idée d'accélérer vraiment l'électrification. C'est quelque chose qui va dans le bon sens, puisqu'il faut vraiment répondre structurellement à notre dépendance aux carburants fossiles.
Cette semaine, le Premier ministre français a présenté une feuille de route sur l'électrification. Il envisage cette taxe, mais il n'a pas donné de date précise pour sa mise en application.
Jeanne d'Anglejean, la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences que vous continuez de suivre minute par minute dans notre direct sur RFI.fr.
L'économie mondiale qui pourrait aussi être frappée par de nouveaux droits de douanes américains.
De nouvelles annonces de Donald Trump hier, tout juste un an après la présentation, tableau à l'appui de ces droits de douane globaux. Invalidé depuis en grande partie par la Cour suprême, le président américain a signé jeudi des décrets pour créer notamment une surtaxe pouvant aller jusqu'à 100% pour les produits pharmaceutiques. Il veut ainsi accélérer l'implantation d'usines aux États-Unis. Les pays disposant d'un accord commercial à Washington ne verront leurs médicaments taxés qu'à 15%. Les droits de douane sur les métaux sont pour leur part revus à la baisse.
5h09 en temps universel et RFI continue de mener l'enquête sur une guerre de l'ombre.
Celle que se mène en Libye, la Russie et l'Ukraine. Troisième volet de notre série ce matin. Alors que ces derniers jours, RFI vous révélait la présence de forces ukrainiennes dans l'ouest libyen, en accord avec le gouvernement de Tripoli. Les forces ukrainiennes présentes en Libye ont frappé deux navires russes appartenant à la flottille de l'ombre. Ehouda Ibrahim, vous nous dites ce matin qu'un très haut responsable russe était à bord de l'un d'entre eux.
Selon nos sources libyennes, une dizaine de très hauts responsables de renseignement russes déguisés en marins étaient bien à bord du pétrolier Kandil, frappé en décembre dernier face à la Libye. C'est la meilleure façon de se déplacer pour un agent de renseignement russe, commente l'une de nos sources. La frappe a fait deux morts et sept blessés. Le général Andrei Averianov, un très haut responsable de renseignement russe, y a trouvé la mort d'après nos sources libyennes. Ce général était parmi les favoris pour reprendre la tête de Wagner, devenu l'Africa Corp. Il connaissait très bien l'Afrique, il y avait effectué plusieurs tournées, il est notamment allé à Benghazi où il a rencontré le maréchal Khalifa Haftar. C'est un coup dur pour Moscou où cette information n'existe pas. La Russie n'a jamais confirmé officiellement cette mort, elle ne l'a pas nié non plus. Moscou avait promis une réponse forte à cette opération. Moins d'une semaine plus tard, ces menaces ont été mises à exécution.
Et notre série d'enquêtes sur la guerre de l'ombre entre Russes et Ukrainiens en Libye qui continue demain. Vous retrouvez un article sur l'épisode d'aujourd'hui sur RFI.fr.
C'était il y a trois mois, jour pour jour.
Au petit matin du 3 janvier, des bombardements américains particulièrement violents sur le Venezuela et l'enlèvement à Caracas de son président Nicolas Maduro avec son épouse par un commando. Ils étaient emmenés dans la foulée aux États-Unis où ils sont toujours incarcérés. Une intervention hors des clous du droit international qui semble avoir payé pour Donald Trump, puisque depuis les deux pays ont opéré un rapprochement, Guilhem Deltaille.
Depuis l'enlèvement de Nicolas Maduro, États-Unis et Venezuela ont repris le dialogue et les deux parties affichent une volonté d'œuvrer à une amélioration de leurs relations. La présidente par intérim vénézuélienne a multiplié les concessions économiques comme politiques. Elle a ouvert le secteur des hydrocarbures aux entreprises privées, décrété une amnistie devant conduire à la libération de tous les prisonniers politiques et annoncé une réforme judiciaire. En contrepartie, les États-Unis ont rouvert cette semaine leur ambassade à Caracas.
Il y a ce chien pour se taire à mes jambes. Et le soleil, bien un chien pour se taire à mes jambes, bien le soleil, y en a-t-il un pour me dire qui je suis venu rejoindre?
Appelez les biplets. Mettez-la en sourdine, nous voilà.
Starving. je me demande, comment tu fais pour avoir d'aussi bonnes notes en écoutant cette radio tous les soirs?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. Dans le sud de l'Eure, 95.9. À Évreux, 102.4. Principe Actif, le mix des cultures.
No puedo.